Interview.
2 jours.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Bonjour Eva.
Bonjour.
Eva Sandors, chanteuse tchèque, c'est comme ça qu'on vous voit sur les affiches. Petite présentation, tiens.
En effet, d'origine tchèque, quoique maintenant je me sens plutôt la citoyenne du monde, parce que ça fait quoi, 16-17 ans que j'ai quitté mon pays d'origine pour bourlinguer j'ai atterri en France un beau jour.
Pour n'en plus partir ?
Si, je bouge, j'aime beaucoup bouger. Après, j'ai mes deuxièmes racines ici en France, donc forcément, mon homme, il est français, moitié français, moitié irlandais. On a un enfant, on a envie de l'éduquer en France, donc plus française qu'autre chose maintenant, et avec une envie d'être ouverte au monde.
Racontez-moi votre histoire.
Oh my God. On va y rester
de quand vous voulez, de quand vous voulez jusqu'à ce départ peut-être de Tchéquie, et puis c'est arrivé en France pour faire quoi?
Ouais, ok. Alors j'étais pas directement en France, j'ai fait un tout petit peu un détour. Mais disons que depuis toujours créatif, artiste dans l'âme, j'adorais depuis enfant. Je veux dire, je créais des petits journaux pour mes amis, je jouais de la flûte, je chantais dans la chorale. Mais c'était un plaisir en tout premier lieu. J'avais pas du tout pensé en faire un métier un jour. Donc mes parents, ils sont bien stricts, ingénieurs, donc ils voulaient une fille bien éduquée. J'imaginais même pas faire autrement que faire des études supérieures. Ça se passait bien. En plus, j'ai fait le français. Hein. J'ai fait le français à la fac des lettres, les lettres modernes, linguistique générale. Donc forcément, j'adorais la langue. Déjà enfant, le français, c'est beau. Franchement, c'est beau, je trouve, en tout cas pour moi, c'est une langue qui est magnifique. Et donc ça a commencé par les études de lettres. Et plus la fin des études s'approchait, plus j'étais nerveuse parce que je ne voulais pas finir comme prof de français, comme ça se passe souvent en République tchèque quand on fait ces études-là. Ben après, on enseigne le français, voire on traduit. Et je n'avais pas trop envie de ça, ce n'était pas assez créatif pour moi. Du coup, un beau jour, j'ai eu le culot. Et je me suis inscrite à l'Académie de théâtre de Prague. C'est un peu comme le Conservatoire de Paris. Si on y rentre, c'est juste par chance ou par miracle. Et ça a marché. Donc c'était génial. Et là, j'étais à ma place parce qu'on faisait plein de trucs créatifs. On nous demandait de faire des impros. J'étais dans une formation un peu alternative où on travaillait beaucoup avec le corps, l'expression corporelle, le théâtre physique. On nous demandait d'écrire nos propres textes. Et j'étais heureuse. Sauf que comme c'était un théâtre un peu particulier, un peu à la marge, où on vraiment créait des spectacles, c'était des créations originales, ben après je savais de nouveau, les études s'approchaient de la fin et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et de toute façon, je n'avais pas envie de rester en Tchéquie, ça me semblait trop petit. Quand on a 20, 21, 22 ans, on a envie de découvrir le monde, voir, je ne sais pas, j'en sais rien, voir le bout du monde, découvrir la vraie vie, quoi. Donc en terminant mes études, ben je suis partie. Je suis partie d'abord en Écosse parce qu'il y avait les gens qui travaillaient un peu dans la même veine de théâtre. Donc, je me suis dit peut-être qu'il y aura une troupe. Je n'ai pas trouvé de troupe. Par contre, je trouvais un homme. Voilà, un homme qui s'appelle Pierre Sandors, qui aujourd'hui est mon mari, qui est illustrateur-écrivain. Plutôt écrivain en premier lieu et après illustrateur aussi pour enfants. Et donc, il y a maintenant combien, 18, 19 ans, on a commencé à bourlinguer ensemble. Passant par Prague, par la Haute-Savoie, c'était le pays d'origine de mon mari. Et ensuite, on s'est installé en Picardie, parce que j'adore la campagne, mais avec l'idée d'être près de Paris. Parce que ce qui me tentait, c'était le cinéma.
Et ça a marché, le cinéma?
Mais quand on se donne des moyens, ça marche. Franchement, ça marche, même si honnêtement... Bon, j'ai fait du sport de haut niveau. Hein. Donc, quand on a du sport de haut niveau, on a beaucoup de volonté et beaucoup de discipline. Et il en faut, parce que franchement, faire du cinéma, c'est de sport de haut niveau. À un autre niveau, mais c'est la même chose. Il faut y aller avec tout son cœur, toute son âme, tout son corps. Et honnêtement, je trouve que l'artistique, c'est tellement imprévisible. Parfois, on se donne tous les moyens, ça ne marche pas. Parfois, on ne fout pas grand-chose et ça marche. En tout cas, ça, c'était mon expérience. Donc, quand je suis arrivée à Paris, tout de suite, j'ai plongé, j'ai fait un stage intensif d'un mois avec les comédiens professionnels qui, déjà, à l'époque, ils tournaient. Bon, moi, j'avais juste un petit court-métrage amateur donc, derrière. Donc, j'avais peu d'expérience, mais j'étais très déterminée et acharnée. Et du coup, au bout de 2 ou 3 mois, mais je tournais déjà dans des projets professionnels. À l'époque, c'était encore de la pellicule. Et qui était produit, coup de bol, c'était encore un moyen-métrage, tourné par Jérôme Sanchez avec... Ah, je sais plus le nom. Il y avait une actrice qui tourne pas mal à la télé. Je l'ai retrouvée d'ailleurs plus tard dans une série télé, Interpol. Ça reviendra peut-être. Et du coup, bah, au bout de quelques mois, j'étais déjà dans un projet qui était professionnel, où j'avais un rôle de 2 pages de texte, ce qui est pas mal quand même pour le début. Et c'était diffusé dans un cinéma indépendant à côté des Champs-Élysées. Et ça, c'était dans un laps de temps de 6 mois. Au bout d'un an, j'avais mon premier agent artistique. J'ai continué à tourner dans des petits projets, des projets d'école, des projets des jeunes réalisateurs. Ils ont même écrit des scénarios, des rôles pour moi, donc c'était génial. Ça commençait à marcher dans des festivals. Et en 2000, donc j'ai commencé en 2006, et en 2012-13, ben j'avais derrière des petits rôles dans les séries télé, notamment Interpol. J'avais improvisé avec Emmanuel DeVos dans La Permission de minuit avec Vincent Lindon de Delphine Glaise. J'avais joué avec Julie Ferrier dans Sous les jupes des filles d'Audrey Dana. Après, malheureusement, au montage, on a coupé la scène, mais il y a quand même des très jolis plans serrés sur moi dans le film. J'avais joué avec Liam Neeson dans Taken 2, réalisé par Olivier Mégaton, où à la base, j'étais embauchée comme doublure lumière de l'actrice principale parce qu'on avait exactement les mêmes mensurations. Et je me suis dit, bah, c'est génial, je peux découvrir un peu le monde des grosses productions franco-hollywoodiennes. Et coup de bol, pour moi, pas pour l'actrice, voire pour la cascadeuse, il y avait des scènes qui étaient doublées par la cascadeuse. Donc l'actrice principale était doublée par la cascadeuse qui s'est blessée. Et ils avaient besoin de quelqu'un, ils ne voulaient pas mettre l'actrice principale. Ben, oups, ils m'ont mis exactement pareil. Et dans des scènes non reconnaissables, ben, je joue avec Liam Neeson à la place de la cascadeuse. Donc c'était des expériences extraordinaires. Et bon, quand on est dans le bain, vous voyez, le quotidien d'une actrice, ben, on essaie de décrocher des rendez-vous, de voir du monde, de faire des projets pour qu'on nous voit. Et parfois, ça a l'air terne parce qu'il n'y a rien qui se passe. Mais maintenant, avec du recul, quand je vois avec quelle vitesse ça allait, c'était vraiment assez rapide. Bon, après, en 2013, je suis tombée enceinte. Du coup, et là, ça commençait vraiment à aller. J'avais déjà des projets qui s'enchaînaient. J'étais aussi dans le projet La Famille Bélier avec Louane. Du coup, ça commençait un petit peu à s'enchaîner. Mais hop, je suis tombée enceinte. J'avais vraiment enceinte, genre jusqu'aux oreilles où je vomissais et tout. Donc, j'ai dû annuler d'un jour à l'autre mes projets. Et c'est vrai que l'enfant, il change beaucoup de choses. Parce que pour le cinéma, honnêtement, il faut y être dès le début jusqu'à la fin, tout le temps, il faut être disponible. Et j'avais envie d'être disponible pour mon enfant après sa naissance. Du coup, ça a changé les priorités. Et oups, déjà à l'époque, je faisais de la chanson. Donc maintenant, c'est vraiment mon gagne-pain principal.
Donc maintenant, c'est Eva Sanders, chanteuse. Et c'est ça que vous venez nous présenter là. Donc il y a une petite tournée dans le Diois.
Absolument, je dirais même auteur, compositeur, interprète. Ce qui me frustrait parfois en tant qu'actrice, bah, on me file un scénar et j'ai un rôle.
Et, oui.
Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de défendre. Bon, j'ai eu quand même pas mal de chance de défendre des choses qui étaient très belles, même des courts-métrages, mais vraiment avec des rôles principaux qui étaient magnifiques et que j'adorais. Mais parfois, j'étais frustrée, j'étais sur ma faim. Et du coup, c'est vrai que dans la chanson, bah, je suis intègre, authentique, 100% moi-même, et je dis ce que je pense à travers la chanson. Et du coup, je peux vraiment à 100% exprimer qui je suis et ce que j'ai envie de défendre dans ce monde. Et ça, c'est génial, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous écrivez ?
Des chansons à texte, poétiques. Et puis, c'est vrai que j'ai une veine. Et ça m'a fait quand même pas mal souffrir dans le cinéma parce que, mine de rien, comme c'est un lieu très compétitif, c'est quand même très dans... Ben, les gens, ils ont peur de perdre leur place. Donc, il y a beaucoup de rivalité. Il y a, y a beaucoup d'égoïsme, ça existe. Alors, il y a aussi le contraire. J'ai rencontré aussi des gens qui m'ont soutenu à fond. Il y avait de la solidarité, mais ce n'est pas tout le temps. C'est plutôt rare et on est très seul. Mmh. Et du coup, au fond de moi, ce n'est pas moi. Moi, j'aime le partage, la solidarité. Je suis persuadée qu'un monde nouveau est possible, parce qu'on est quand même dans des crises, on ne va pas se mentir. Et c'est quand même pas... Déjà, je veux dire, avant la crise sociale, la crise économique, la crise écologique, et maintenant, en plus, la crise sanitaire. Donc, ça fait beaucoup. Et ce n'est pas facile. Je pense que c'est facile pour personne, notamment pour des personnes qui sont vulnérables. C'est pas facile. Et du coup, moi, je crois, je suis profondément persuadée, et ça, c'est mes valeurs de base, qu'on peut s'en sortir en s'entraidant, en étant solidaire, en se respectant, en étant tout simplement humain, quoi. Et en créant plus des opportunités d'entraide que de chacun pour soi. Et je trouve que cette époque-là, elle nous invite à ça, quelque part. Et donc, ça, c'est le message de mes chansons, entre autres.
Et c'est écrit en quelle langue, du coup? Vous le chantez en français ou en tchèque?
Ah, merci, une très belle question.
Parce donc, que j'ai bien entendu que la langue française était jolie. D'ailleurs, oui, j'en glisse une autre. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre la Tchéquie et la France pour qu'on apprenne comme ça le français facilement?
Ouais, ok, d'accord. Je vais commencer par la deuxième question et je vais revenir à la première. Donc la deuxième, le lien de la France et la République tchèque. Là, récemment, non. Bon, on sait que la Tchécoslovaquie, c'était totalitaire pendant 40 ans et c'était plutôt tourné vers l'Est. On devait apprendre le russe obligatoirement. C'était vraiment... Mais c'était artificiel, c'était pas naturel. Après, quand on regarde dans le passé, vraiment même le Moyen-Âge, il y avait des relations privilégiées entre les rois tchèques et la France. Il y avait même un roi, le Charles IV, qui a épousé une de ses épouses, c'était Blanche de Valois. Donc, il y avait même des relations entre la France et la Bohémie à l'époque. Et je pense que c'est resté quelque part dans nos cellules. C'est-à-dire, aujourd'hui, le français, ce n'est pas la langue numéro une en République tchèque. Évidemment que non. C'est l'anglais et pas mal l'allemand, parce que l'Allemagne, c'est à côté. Il y a beaucoup d'échanges économiques. Mais ça, c'est toute une histoire aussi. J'avais 14 ans, j'étais admise au lycée, qui prépare vraiment les intellectuels pour rentrer dans les universités. Et je devais choisir deux langues. On avait deux langues étrangères. Il y avait une classe allemand-anglais et l'autre allemand-français. Et moi, idéalement, j'aurais aimé apprendre l'anglais et le français. Et comme il n'y avait pas cette combinaison, j'ai mis quand même l'anglais en premier lieu, mais j'ai mis avec un crayon éventuellement le français. Et comme ils avaient moins de personnes qui étaient intéressées par le français, ils m'ont mis dans la classe allemand-français. Et donc, j'ai appris le français au lycée. J'ai eu une prof juste magnifique qui était vraiment... qui adorait la France, qui nous... a inculqué, c'est un mauvais mot, qui nous a ouvert à cet amour de la France et du français. Et du coup, les garçons qui étaient genre qui traînaient, qui apprenaient rien, qui foutaient rien pour les maths ou pour le tchèque, pour le français, ils avaient une bonne note et ils savaient parler parce qu'elles savaient enthousiasmer tout le monde. Donc, c'est là que cet amour pour le français s'est réveillé en moi et ça continue. Donc, même aujourd'hui, je dirais qu'il y a la minorité des gens, des Tchèques qui comprennent le français, mais ils aiment la langue. Moi, je vais faire des tournées de mes chansons en français en République tchèque et les gens, ils sont là, « Ah, mais qu'est-ce que c'est beau !»
Mais pourquoi c'est beau?
Mais demandez-leur, moi, j'ai pas assez de recul, je vis en France maintenant, il faut demander à un Tchèque qui a une oreille vierge. Mais honnêtement, le français pour les Tchèques...
Et vous l'aviez dit aussi au début, en introduction, que cette langue... pourquoi? Parce que la langue tchèque, elle est à ce point différente.
Vous voulez que je vous dise quelque chose?
Ouais, ouais.
Ahoj, tak dneska jsem tady v tom studiu a je to fakt paráda, moc se mi to líbí.
Ce qui veut dire...
salut, alors c'est génial, je suis dans ce studio qui est vraiment extraordinaire, et je suis bien ici. Mais ça, on ne comprend rien, je pense.
Non.
Étant français, c'est une langue slave, c'est une autre famille, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que pour l'oreille tchèque, le français, il y a quelque chose de magique et même de noble, je dirais. Et donc, comme je dis, aujourd'hui, il n'y a pas la majorité qui parle le français. Les Tchèques, c'est évidemment l'allemand, l'anglais. Mais le français, il y a quelque chose et les gens, ils aiment. Même quand je donne des concerts en français, ils ne comprennent pas, mais ils me disent « Ah !» Et il y a leur cœur qui s'ouvre. C'est un mystère.
Du coup, vous écrivez en français?
Ça n'a pas commencé comme ça quand même. Donc, il y a encore une histoire. Quand j'étais à Paris, près de Paris, à essayer de percer dans le cinéma, le quotidien, il est quand même plutôt dur, c'est pas facile. On est découragé plein de fois, on se fait rejeter 100 000 fois, on fait un casting, on pense qu'on a fait une super audition, on nous rappelle pas. Et ça, c'est pas uniquement moi, mais c'est tout le monde. Et après, il y en a quelques qui ont la chance de percer. Je suis très heureuse pour elles, parce que je sais combien c'est difficile. Mais du coup, comme j'étais un peu déprimée parce que pas de projet, etc. Du coup, une amie, elle me dit, alors fais quelque chose. Essaye de la chanson. Et je la regarde avec des grands yeux. Je me dis, mais comment je pourrais faire de la chanson? Ça se fait pas comme ça. Néanmoins, j'étais chez moi et j'étais à moitié déprimée. Je me dis, il vaut mieux être créative, essayer quelque chose pour m'en sortir que de rester dans le trou noir. Donc, je me suis assise chez moi. Je me suis dit, OK, je me mets une heure. Si je suis capable, dans une heure, faire une chanson, c'est que c'est possible. Je me suis assise et je vous jure, au bout d'une heure, j'ai créé une chanson. Elle était en tchèque, elle n'était pas en français, la première. Et du coup, je me suis dit, et j'ai pris plaisir de mettre les mots qui sonnent bien, de créer des images poétiques, ensuite mettre en musique, prendre ma guitare. À l'époque, je chantais, je savais juste 3-4 accords. J'étais une amateur à fond, quoi, avec la guitare. Mais j'ai fait ça et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Et du coup, quand j'avais du temps libre, je me suis fait une discipline. Je me suis assise tous les matins à mon bureau et j'écrivais des chansons, je les mettais en musique. Ce qui fait qu'au bout de quelques mois, j'en avais un set. Et comme j'avais un ami à Paris qui habitait à Montmartre à l'époque, qui était artiste canadien, auteur-compositeur-interprète, qui s'appelle Andrew Sweeney, influencé par Leonard Cohen, avec des beaux textes poétiques, avec une voix un peu rock, suave. J'aimais ça. Et du coup, il m'a dit, tu sais, la prochaine fois, tu ramènes la guitare, tu me chantes quelque chose, quand j'étais en visite chez eux. Donc, j'ai pris la guitare la prochaine fois, je lui ai chanté, j'étais toute tremblante. Elle me dit, écoute, j'aime bien, je t'enregistre. Bon. Et comme ça, on a commencé. Il avait un petit home studio. Toutes les semaines, on se voyait, je lui chantais ce que je venais de composer et puis il m'enregistrait. Et après, quand il faisait des concerts dans des bars à Paris, j'allais avec lui. Comme quand j'étais petite, j'avais appris la flûte traversière. Du coup, je faisais un peu d'accompagnement à la flûte traversière pour ses chansons. Et en échange, je chantais 2 ou 3 chansons à moi dans des bars. Et comme ça, j'ai commencé à tester. Et du coup, il y a quelqu'un qui a pris une photo, il l'a mis sur Facebook. Et comme j'étais surtout dans le cinéma à l'époque, il y avait des projections des films dans lesquels je jouais. Et ils ont fait un hommage à des courts-métrages où j'ai joué des rôles principaux. Ils ont fait donc une soirée des projections avec les films où j'avais joué. Et du coup, le programmateur qui me soutenait, qui m'aimait bien, il m'a dit, écoute, je t'ai vu avec la guitare, je ne savais pas que tu chantais. Je dis, un peu. Il m'a dit, tu ramènes la guitare pour la prochaine projection. Et pendant les projections, j'ai commencé à faire des intermèdes musicaux, c'est-à-dire je commençais à chanter 2-3 chansons à moi. Et c'était à peu près ce qui me... Au niveau de mon confort, c'était parfait. Je testais un peu mes chansons sans me mettre trop en danger. Et c'était bien évidemment une petite salle de 40-50 places, une salle indépendante dans le 11e arrondissement. Et... un jour, il me dit, écoute, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce que tu veux un concert? Et là, j'étais le cœur, lâche moi. Je me dis, un concert, c'est différent, c'est pas 3 chansons. Et du coup, dans ma tête, ça allait très vite parce que, vous savez, pour se produire à Paris, c'est pas évident. Tous les artistes, ils cherchent des opportunités pour se produire. Et là, on me le servait sur le plateau. Et on m'avait appris très tôt dans ma carrière, tu dis jamais non avant d'essayer. Et du coup, ça allait très vite dans ma tête. Hein. Et je me dis, la guitare, c'est quand même pas top. Je suis vraiment amateur. Qu'est-ce que je vais faire? Non, il faut que je le prenne parce que comme ça, j'ai du nouveau pour le Facebook, pour nourrir ma nouveauté. Et puis comme ça, je continue à travailler. OK, je le prends. Donc j'ai dit oui. J'avais quand même encore 2 mois de temps et je bossais tous les jours la guitare, 1 ou 2 heures, pour que ça ressemble à quelque chose de correct. Et j'ai donné mon premier concert à Paris comme ça. Et comme il aimait, il continue à me programmer. Et j'ai commencé comme ça. Du coup, c'était pas « je dois chercher ». Au début, c'est venu vraiment vers moi. C'est pas toujours comme ça, mais c'est un soutien aux artistes qui est énorme.
Et depuis, ça s'est pas arrêté?
Et depuis, bon, je donne quand même des coups de pouce. Hein. J'ai bien appelé la radio pour dire est-ce qu'on ne fait pas un entretien ? Donc, évidemment, c'est aussi une approche professionnelle. Si on ne bouge pas, c'est pas tout le temps qu'on nous sert. Moi, j'aimerais bien que ce soit comme ça, mais c'est pas tout le temps comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez fluide. Et je pense, comme pour la musique, ben déjà, je suis authentique. Je suis moi-même. Je chante ce que j'ai envie de chanter. Je partage avec les gens ce que j'ai envie de partager. Donc, ça marche. Parce que quand on est nous-mêmes, ça marche toujours le mieux. Et il y a plus de liberté, évidemment. Et du coup, comme il y a beaucoup moins de volonté, beaucoup plus de plaisir, parce que dans le cinéma, j'étais quand même beaucoup avec la volonté. Allez, il faut y aller, il faut appeler cette personne, il faut aller à ce stage, il faut rencontrer cette personne. Et quand on va dans quelque chose avec beaucoup trop de volonté, ben souvent, on bloque même les opportunités qui pourraient venir. Du coup, comme avec la musique, c'était surtout du plaisir au départ, sans grande prétention professionnelle, mais ça marche. Ça marche.
Et le plaisir est toujours là.
Ah bah ouais. Mais ça, c'est la base. Parce que quand je chante avec du plaisir, bah les gens, ils ressentent ce plaisir. Ils vont avoir du plaisir aussi.
Du coup, est-ce que vous avez pris quand même des cours dans cette voie-là du chant, de guitare peut-être, pour finir par être professionnel de ça? ou alors tout est resté autodidacte, hein, et on devient professionnel aussi.
Bah, franchement, c'est l'expérience qui compte.
Ouais.
Parce que vous avez plein de gens qui ont pris plein de cours et ils n'en ont rien fait de leur vie.
C'est sûr.
Et il y a des gens qui n'ont pas pris tant de cours et qui aujourd'hui, ils le font. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont fait très souvent, très régulièrement, ils n'ont plus pris plaisir et ça a marché. Donc, pour être très honnête, pour la guitare, j'ai pris un cours quand j'avais 13 ou 14 ans, quand mes parents m'ont offert ma première guitare folk. Je me suis sentie tellement nulle dans ce cours collectif que je ne suis pas revenue. Et ensuite, j'ai pris un cours avec mon guitariste d'accompagnement qui est Maurice Jacobi. Aujourd'hui, il est retraité déjà et c'est un très bon guitariste qui a accompagné Charles Aznavour, Mireille Mathieu et des grands, grands, grands chanteurs français. Donc lui, il m'a accompagnée aussi sur scène à la fin de sa carrière. Et du coup, justement, à un moment donné, je doutais vraiment de moi en tant que guitariste. Donc, je l'ai appelé et il m'a donné un cours que j'ai enregistré et que j'ai répété beaucoup. Mais après, honnêtement, tous les guitaristes, vous avez plein de super guitaristes autodidactes.
Ah ben oui, bien sûr.
Moi, je suis une bonne guitariste d'accompagnement. Je ne suis pas une guitariste soliste. Non, ça... Et je n'ai pas cette prétention-là, mais je trouve que... parfois, même les musiciens me disent « Mais arrête de chercher des guitaristes professionnels, accompagne-toi toi parce que tu sens ta musique et c'est plus juste. » C'est peut-être plus simple, mais c'est plus juste. Il y a plus d'expression. Donc pour la guitare, c'est ça. Et pour la voix, c'est toute une autre histoire. Depuis toute petite, je chantais dans des chorales parce que j'aimais ça. J'aime chanter, naturellement. Et après, j'ai beaucoup changé de prof de chant. J'en avais à l'école de théâtre. Mais ça a pas mal changé. Ensuite, quand j'ai terminé, j'avais envie de continuer à améliorer le chant. Donc, j'ai pris différents profs. Et souvent, malheureusement, je tombais sur des profs qui étaient très à me pousser la voix. Et du coup, j'ai appris une technique où je poussais. C'était pas agréable pour moi. Et je pense que c'était pas agréable tout court. Et du coup, c'était un long chemin pour réapprivoiser ma voix, pour vraiment faire confiance en ma voix. Et pour la laisser sortir. Et je pense que c'est ma dernière prof, Elodie Kimmel, qui habite en région parisienne, qui est une chanteuse d'opéra, mais quand même en même temps une prof de hors pair, quoi. Elle est très humaine, elle est très intuitive, et elle est très aussi à vous entourer de l'amour. Moi, j'ai pris confiance en moi avec elle, quoi. Donc, j'ai pris quelques cours, mais pareil, c'était quoi, 3-4 cours que j'ai enregistrés. Et après, c'est vrai qu'après, je travaille, hein, parce que sans travail, il n'y a rien. Donc, une fois j'enregistre le cours, je le répète tous les jours pendant un mois, jusqu'à ce que tout ce qu'elle m'a transmis rentre dans mon corps. Voilà. Donc, beaucoup autodidacte avec quelques cours avec des gens très qualifiés.
Et beaucoup d'acharnement. Tel un sportif professionnel, on l'entendait déjà tout à l'heure.
Refroidit son lit, silence. soleil levant. C'est fini, je ne dirai plus maman. Rivière de vie, courir, jaillissent ensemble un instant et soudain seul, terriblement. Matin. Son visage flétri, son regard me sourit. Tout en dormant, je l'appelle maman. Rivière de vie, courent et jaillissent ensemble un instant et soudain seul, terriblement. Mes certitudes déchirées par ton absence. Un géant étrange et menaçant habite chez moi dorénavant. Ensemble un instant et soudain seul, terriblement. Je suis triste, maman. Depuis longtemps, je ne porte plus de souliers d'enfant. Le vent se lève, il fait froid. Et moi, qui suis-je sans toi, maman?
C'est quoi comme style de musique, Eva Sandors?
Chanson à texte, je pense qu'il y a beaucoup d'influences slaves, tchèques, et mes origines qui sont plutôt folk. Ouais, je dirais que je suis pop folk, accompagnée à la guitare. Parfois, par exemple, quand j'ai sorti mon album Mirage, la revue Happiness Magazine m'a comparée à Joan Baez ou à Cat Stevens.
Oula.
Et ça, c'est vrai que c'est, j'adore, je veux dire, Cat Stevens, mais...
Ça doit faire plaisir, ce genre de
comparaison. Oui.
Plaisir, oui, ou ça fout, oui, la pression aussi, peut-être, hein.
Non, bah, pour être très honnête, j'ai passé la quarantaine et après, on se fout moins la pression. Je trouve que jusqu'à quarantaine, bah, on essaie de paraître, d'être bon, et franchement, après, on lâche prise, parce qu'il y a des choses que je ne saurais jamais faire, il y a des choses que je fais même peut-être très bien, et il y a moins de pression. Mais alors, quand me disent que ça sonne un peu comme Joan Baez ou Cat Stevens, alors ça, franchement... c'est un sacré compliment, quoi.
Bah ouais.
Voilà, donc ça sonne peut-être un peu comme ça, et puis aussi un peu comme Eva Sandors, j'espère. Et ces guitares-voix, la majorité des concerts, je fais en solo, même si j'adore collaborer avec les autres musiciens, quoi. C'est un plaisir de faire des collaborations. Après, c'est déjà que le projet soit viable économiquement, malheureusement, dans notre société, ben après...
Oui, c'est de plus en plus difficile de se déplacer avec un groupe...
Ben oui. Ben, par exemple, en République tchèque, quand je me produis, c'est ou alors en solo, ou alors en duo avec violoncelle, parce que j'adore le son du violoncelle. Donc, j'ai des musiciens professionnels à Prague qui sont calés, qui sont prêts, on fait de répètes et on va sur le plateau, quoi, on fait des concerts. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les collaborations. Ici en France, à un moment donné, on était trois. Il y avait deuxième guitariste, deuxième voix, il y avait une oboïste. C'était génial. Mais après, c'est aussi la guitariste chanteuse, elle est partie à Amiens, c'était trop loin pour les répètes. L'autre, elle a commencé les études supérieures, elle n'a pas eu le temps. Donc, c'est vrai que la vie fait que parfois on est seul, parfois on est à plusieurs. J'adore travailler à plusieurs, mais heureusement, j'ai cette force de travail d'indépendance, d'être toute seule, sinon j'aurais déjà terminé, je pense.
Et du coup, indépendante aussi sur la production, par exemple, d'albums, dans la diffusion, on entendait tout à l'heure, passer encore les coups de fil ou il y a quelqu'un quand même pour
Alors, pour l'instant,
pour soutenir.
Oui, alors pour l'instant, c'est majoritairement moi. Et honnêtement, si on veut vivre de sa musique aujourd'hui et si on n'a pas d'entourage professionnel qui peut venir à un moment donné, évidemment, il faut apprendre ça. Si on n'apprend pas ça, il faut se destiner à autre chose. On n'a pas le choix. Franchement, on n'a pas le choix. Donc, en effet, j'ai appris à chercher des contacts, à prendre le téléphone, à appeler, à me présenter, à présenter ma musique. Et c'est comme ça que ça marche. Et parce que j'ai déjà quand même une certaine expérience derrière, et les gens, ils apprécient ma musique. Donc, je commence à m'entourer. J'ai des gens qui m'aident en République tchèque. Et ça serait super d'avoir quelqu'un en France aussi qui peut m'épauler, qui a un carnet d'adresses, où c'est plus facile d'accéder à des gens qui ont des salles. Parce que c'est vrai que sinon, ça c'est long hein, et ça prend du temps.
Oui, et puis on imagine d'ailleurs que ce n'est pas le même métier. Enfin, là, le vôtre, c'est d'être auteur, compositeur, interprète et pas diffuseur, booker.
On est d'accord. Et c'est vrai que tous les musiciens qui aspirent à vraiment que leur musique rayonne partout en France et dans le monde, à un moment donné, il faut ça. Sinon, ce n'est pas possible. Oui, puisque ça prend du temps. Et c'est clair que je préfère créer, répéter, préparer le spectacle que booker mes concerts. Bon, ceci dit, pour la petite tournée du Oise, je me suis occupée à préparer les affiches, à les faire imprimer, à les afficher avec une amie. Donc, et on est aussi quand même dans un contexte très particulier pour les artistes. Parce que moi, il y a 3 mois, on m'a annulé tous mes concerts.
Oui, il ne se passe plus rien. Là, ouais,
toutes mes dates.
Ouais, ouais.
Toutes mes dates. Sachant que, pour faire une comparaison, en République tchèque, donc pareil, y avait la quarantaine, y avait le confinement, etc. Sauf que l'État, il a soutenu tout le monde. Tout le monde a eu quelque chose, même les artistes, les indépendants, ils ont eu de l'argent reçu de l'État, notamment les parents, pour garder leurs enfants à la maison. Moi, ici en France, j'ai rien eu. C'est stressant parce qu'il faut vivre de quelque chose.
La culture n'a rien eu, ouais.
Ouais,
grande partie de la culture, la musique et évidemment le spectacle musical vivant, dansant, tout ça, ça a vraiment pris une grosse claque. Ouais.
Ah oui, absolument.
Et on n'est toujours pas relevé. Hein,
non, mais je suis déjà reconnaissante que pour l'instant, on puisse faire au moins ça, que je puisse faire quelques concerts dans des temples ou dans des endroits parce que il y a encore un mois ou 2 mois, ce n'était pas possible. Maintenant, on peut timidement, port de masque obligatoire.
Mais petit lieu.
Voilà. Ouais. Mais au moins, on peut. Déjà pour nous, pour les artistes, franchement, on a au moins quelque chose. Parce que si on ne travaille pas, c'est dur. Pas seulement financièrement, mais moralement. Et même pour les gens, j'ai des amis qui me demandent « Est-ce que tu joues quelque part ?» ou « Est-ce que quelqu'un joue quelque part ?» parce qu'ils en ont besoin aussi.
Ce confinement, d'ailleurs, est-ce que vous faites partie de ces artistes qui, du coup, n'ont plus pu créer, se sont arrêtés, ont lâché la guitare, la voix, ou au contraire?
Oui, alors le confinement, c'était quand même pas évident parce qu'on vit un appartement à 3 avec mon mari, avec notre fils à l'époque, il avait 5 ans et demi, et on avait le droit à 1 heure de sortie par jour. Donc un enfant de 5 ans et demi que vous devez enfermer pendant une journée entière à l'intérieur, c'est pas facile. Ça, c'est facile, c'est pas facile, c'était difficile pour tout le monde. Donc, on a fini par faire des petites chansons avec mon fils. Sachant que quand mon fils s'y met, parce qu'il me voit faire des chansons depuis qu'il est né. Donc, pour lui, c'est naturel.
Même avant.
Le dernier concert, en effet, au Connétable à Paris, une petite salle indépendante dans les Marais, c'était au 7e mois. Donc, j'avais déjà le ventre, la guitare plaquée sur le ventre. Et lui, il tambourinait de l'autre côté, bam, 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 sur la guitare. Donc, c'est vrai qu'il a entendu la musique depuis toujours. Pour lui, c'est tellement naturel. Et bon, moi, quand je fais des chansons, si j'ai un coup d'inspiration, ça peut être 1 heure. Mais ça peut être aussi quelques jours, une semaine. Parfois, c'est des mois avant qu'elle naisse. Lui, en 5 minutes, il sort son texte. Après, il me fait une petite musique et c'est terminé. On a fait une chanson sur Harry Potter, mais en 5 minutes, quoi. Il ne se pose pas la question. C'est un enfant. Il joue. Il joue à créer une chanson et voilà, une chanson est née. Oui, donc le confinement, pour en revenir à la question, pour moi, c'était plutôt difficile parce qu'il fallait que je m'occupe de notre fils, que je l'occupe aussi. On ne savait pas où on allait. Étant une famille des artistes, on a des rentrées d'argent qui sont quand même assez imprévisibles, donc ce n'est pas facile. Donc il y a un stress financier qui est évident aussi. Et plus, on m'a annulé mes concerts. Parfois, j'enseigne, je fais plutôt des formations en entreprise et dans le milieu de recherche au niveau de la prise de parole. parce que je suis une ex-actrice quand même, ou même encore un peu actrice, mais tout a été annulé, tout. Donc c'est vrai, si j'avais l'esprit tranquille, je pense que j'aurais pu continuer à créer. Là, je n'avais pas l'esprit tranquille, donc c'était plus comment faire pour garder l'esprit sain. Voilà. Et sachant qu'on habitait à côté d'une forêt qui était interdite, évidemment, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Je ne sais pas comment c'était dans la Drôme. On pouvait sortir dans la nature ou pas ?
Non.
Ouais,
donc un kilomètre, quoi.
Oui, donc c'était pareil. Ben, chez nous aussi, sauf que la forêt qui est à 30 mètres de notre appartement, on n'avait pas le droit. Et il y avait la police qui surveillait et qui donnait les amendes si on sortait. Donc moi, qui suis très proche de la nature et qui me nourris du contact de la nature, de la terre, ne pas pouvoir sortir dans la nature, ben on allait à la lisière où on était un peu sous les arbres, où je jouais avec mon fils, notre fils. Mais c'était pas facile, franchement pas.
Est-ce que ça va être un sujet de prochaine chanson?
C'est vrai qu'il y a plein d'artistes que dès le début, ils ont foncé, ils ont fait des chansons. Bruno Guglielmi, un collègue auteur-compositeur-interprète qui écrit par exemple pour Julien Clerc, il a écrit une très belle chanson sur le confinement qu'il a mis sur Facebook. Ça a cartonné, il y avait je pense 1 million de vues. Moi, non, j'en ai pas écrit. Je pense que je veux pas en écrire. Je veux plutôt écrire sur mes thèmes de prédilection, quoi. Que là, plus que jamais, soyons solidaires, soyons à s'entraider pour vivre bien, quoi. Peut-être plus simplement, mais bien.
Mais c'est ça que nous a montré ce confinement, d'ailleurs, c'est qu'on pouvait même plus être solidaires et sociaux. Eva, cette tournée d'Ioase, c'est quelle date, c'est quand, c'est où?
Alors, la tournée d'Ioase commence la semaine prochaine, début août. La première date, c'est le mardi 4 août à 19h. C'est le concert au Temple de Châtillon en Dioua. Voilà, et je me réjouis vraiment de chanter dans ce temple où j'ai entendu le concert de Isentieri, le groupe local.
Ah oui.
Il y a, je ne sais pas, une semaine à peu près.
Ça a fait un carton, effectivement, on vous a dit.
C'était très beau, vraiment, c'était waouh, magnifique. Très, très, très beau. J'ai, en tant que musicienne, même en tant qu'humaine, j'étais nourrie vraiment profondément. C'était très beau. Donc ça, c'est le premier, le mardi 4 à 19h au Temple de Châtillon en Dioua. Ensuite, le lendemain, j'enchaîne le Temple de Poney, pareil à 19h. Donc ça, c'est le mercredi 5 août à 19h, le concert au Temple de Poney. Et ensuite, le vendredi 7, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Le vendredi 7 août à 21h, ça sera chez Andarta, au café-théâtre de Die, chez Valentina, où il y aura un concert. Et celui-là, il va être vraiment particulier. Donc, surtout si vous aimez bien la langue slave, le tchèque, venez, parce que c'est un concert qui est dans le cadre du festival L'âme slave. Et du coup, je vais chanter majoritairement...
Andarta, voilà, produit chaque année, ouais.
Et du coup, je vais chanter majoritairement en langue tchèque, tout en prenant le temps aussi de traduire un peu les textes. Donc ça, là, je me fais plaisir parce que c'est un peu aussi ma vocation de ramener ma culture de base, d'origine, en France. Et là, il y aura vraiment de quoi faire. Pour l'instant, c'est ces trois concerts-là. Et puis, il y a encore des choses qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore confirmées. Donc, j'invite les personnes intéressées à regarder sur mon site www.evacendors.org. Et si vous cliquez sur l'icône Tour. Ouais, malheureusement, le site est en anglais. Comme je donne des concerts en France, en Tchéquie, ils lisent beaucoup plus l'anglais. Ils
comprennent non, mais Tour, on comprend.
Oui, Tour, on comprend. Donc, vous cliquez sur Tour et vous aurez toutes les dates. Et pour l'instant, il y en a trois.
Et on peut vous suivre, évidemment, sur Facebook. Ça a été cité un paquet de fois. Peut-être c'est l'endroit où c'est le plus réactif.
Absolument. Eva Sanders Music. En anglais. Eva Sanders Music. Voilà.
Merci Eva pour ce portrait d'abord, de vous être livrée comme ça.
Et c'est puis
pour ces dates de tournée d'Ioase, donc à retrouver sur internet si vous avez déjà oublié ou sur cette page de l'émission, évidemment sur rdioa.fr. À la prochaine alors.
À la prochaine, merci beaucoup. J'en ai marre.
suis importante, j'ai pas le temps d'attendre, j'en ai marre.
Ça serait super si parfois on arrivait à s'arrêter, à être tout simplement, à contempler la beauté tout autour et ne plus rien vouloir parce qu'au fond, on a déjà tout ce dont on a besoin pour être heureux ici et maintenant. Pas vrai?
Encore.